se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Carrefour.
Quand vous me dites
« Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip large Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Il est 7h07. C'est parti pour ce week-end des experts. Et après le jardin, et avant de retrouver la forme et la santé tout à l'heure avec Christian Ekia et la vie numérique en compagnie de Raphaël Grabli, c'est l'heure de la maison. La maison, vous le savez, chaque samedi 7h-8h, c'est avec Christian PC. Pendant une heure, bien sûr, toutes vos questions, bricolage, maison, déco, c'est maintenant. Christian PC, bonjour.
Bonjour, mon cher François.
Alors, la véranda, la star du moment, idéal pour le télétravail. Tiens, parce que vous avez télétravaillé, vous, dans votre véranda.
Et oui, donc ça m'a donné l'idée de traiter de ce sujet un peu sous cet angle. Bon, on traitera évidemment aussi les autres aspects, on va dire, généraux de la véranda, quel matériau, quelle
orientation.
Mais là, on
quelle est la législation aussi ? Est-ce que je peux installer une véranda comme ça ? Il faut que je fasse est-ce qu'il y a des demandes officielles à faire, etc.
Ou pas, on va voir.
On retrouvera aussi votre coup de cœur. On évoquera les détecteurs de fumée, la télésurveillance qui ont évité que votre maison brûle dimanche dernier.
Oui, dimanche.
C'est pas possible.
Tout à fait.
Mais vous avez fait un barbecue un peu trop puissant ?
Non, c'était dans la cuisine. Je ne dénoncerai pas la personne qui cuisinait. Mais bon,
c'était Annie.
J'ai laissé. Ah non, je vous ai dit que je ne dénoncerai pas.
Ah, vous n'avez pas envie de vous faire engueuler en rentrant, hein, c'est ça ?
Non,
et qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, enfin, vous nous expliquerez
tout à l'heure.
Parce que là, le suspense, c'est terrible.
Sans les détecteurs, ma maison serait aujourd'hui en cendres. Donc, ça va être l'occasion aussi de rappeler les nécessités de contrôle des piles, etc. Et de voir s'il est bien placé.
Très bien. Dans quelques instants aussi, on évoquera les briques monomures. Pourquoi construire sa maison en briques monomures ? Quel est l'intérêt ?
Voilà,
on en parle dans une minute. Je vous rappelle que le 32-16 est là pour ça. Vous pouvez joindre à tout moment Christian PC pour poser vos questions. Alors, sur les vérandas, bien évidemment, mais sur tout autre sujet lié à la maison. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on attaque tout de suite avec Olivier qui est là. Bonjour Olivier.
Bonjour. J'espère que vous allez bien.
Oui, ben, très bien, merci.
Bienvenue Olivier sur RMC. On vous écoute.
Donc, j'avais une petite question parce que j'ai dans un projet de faire de l'isolation par l'extérieur. Et donc, j'ai fait deux devis. Et c'est le même principe, hein, c'est un enduit sur isolant. Seulement, c'est deux procédés différents. Il y a un enduit à base de chaux respirant et un enduit siliconique.
Ouais.
Et j'aurais voulu savoir, dans la durée de vie, lequel était le plus intéressant.
J'ai pas compté. Non mais d'abord, qu'est-ce que vous avez en dessous comme isolant ?
Là, j'aurais l'isolant dans l'enduit, dans la chaux respirant, j'aurais un isolant de 12 cm.
Oui, mais de quoi ?
De polystyrène.
D'accord, et dans l'autre aussi ?
La même chose.
D'accord. Alors d'abord, est-ce que vous pensez que le polystyrène, ça respire ?
Normalement, non.
D'accord, alors donc ça sert à quoi un enduit à chaux, qui respirerait, si j'ose dire ?
Pour les vapeurs d'eau, peut-être ?
Ben non, une fois que vous avez un isolant, il est imperméable. Si vous y mettez dessus quelque chose qu'on vous vante, c'est ça qui m'énerve dans ce qu'on a pu vous dire, qu'on vous vante quelque chose qui serait respirant sur quelque chose qui est imperméable. Donc ça sert à rien.
D'accord, oui.
Hein, donc, je veux dire, ça, pour dire que ça sent pas bon, mais l'important c'est de voir si, vous savez, un enduit qui soit à base de silicone ou mortier, Bon, le mortier, c'est le plus traditionnel. Donc, ce qu'il faut voir, c'est comment c'est fait. Si on ferait bien un treillage d'accrochage. Donc, ça, oui. Si c'est ça, après, je vais dire l'enduit, le type d'enduit dans le temps. Un enduit chaud ciment, c'est-à-dire, ça s'appelle un mortier bâtard. C'est très classique. Alors, ça a fait ses preuves. L'enduit siliconé, si j'ose dire, enfin à base de silicone, oui, ça me paraît bien aussi. Mais et alors la différence de prix, elle est de combien? C'est quoi?
Il y a à peu près 3000 euros entre les deux. Quoi. La chaux est plus cher de 3000 euros.
Eh ben alors prenez l'autre.
D'accord, très bien. Hein, bah, écoutez,
gagnez 3000 euros.
Oui,
vous prenez combien sur ces économies là,
vous n'oubliez pas les 10% qu'on a convenu
avant de faire l'antenne,
évidemment. Voilà, que vous envoyez à François Sorel. Après, moi, je dispatche avec la question PC.
Ah oui, il faut bien qu'il prélève sa dîme.
Il n'y a aucun problème.
Vous nous appelez d'où, Olivier?
De Quimper.
De Quimper, parfait. Bon, ben très bien. Ça va? La réponse vous va?
Oui, c'est nickel. Oui, bien sûr.
Oui, d'autant que je pense que. En l'occurrence, vous êtes quand même dans un endroit où il pleut un peu plus qu'à Carpentras, quoi.
Oui.
Donc, a priori, un enduit silicone, il est plus étanche, donc ça devrait mieux coller. Moi, je ferais ça.
D'accord, mais écoutez, je suis vos conseils.
Ok. Merci beaucoup. Et puis, vous nous direz, hein. Vous reviendrez dans 10 ans, hein, pour nous dire, parce qu'on sera toujours là, évidemment. Hein.
Bien sûr.
Oui, bien sûr.
Évidemment. C'est vrai qu'il pleut beaucoup à Quimper, Olivier, ou c'est une légende, quand même?
Bah, il pleut 4 heures avant chez vous, quoi.
Ben voilà, c'est ça. Mais après, oui, de toute façon, voilà, ça arrive après chez nous. Voilà.
Entre deux, ça s'est un peu vidé, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est pour ça qu'on dit qu'imperméable.
Oui,
hein, voilà. C'était le truc, c'est exprès. Voilà, Olivier, merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup, bon week-end.
3216, l'appli RMC Direct Studio. Vous pouvez joindre Christian PC jusqu'à 8h, comme chaque samedi. Et il est temps maintenant de retrouver... votre conseil de l'expert.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Alors, c'est pas béton, mais...
Ça oui, mais monomur. Brique, c'est brique. Juste avant, je vous rappelle que tout à l'heure, dans quelques minutes, on parlera véranda avec Christian Pesset, notre invité. Vous avez des questions sur les vérandas. Vous projetez peut-être d'en installer une. Vous avez toujours rêvé d'avoir une véranda. C'est le moment ou jamais. Vous avez une question, même qui vous paraît toute bête. Profitez-en, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Et si vous nous joignez via Direct Studio, donc via l'appli RMC, laissez-nous votre numéro de téléphone. Pourquoi donc, Christian, construire notre maison en briques monomure?
Eh bien, parce que la brique, c'est un matériau bien connu depuis des siècles. Hein. La brique monomure, elle est apparue dans les années 70-80, après les chocs pétroliers pour fabriquer des maisons qui soient plus isolantes sur le plan thermique. Alors, pour ça, comme l'air est le meilleur des isolants, je le rappelle, je le rabâche toujours, c'est l'air qui isole, hein, c'est jamais les matériaux eux-mêmes d'isolation, eh bien, comme l'air est le meilleur des isolants, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les alvéoles, vous savez, dans une brique creuse, vous avez une douzaine, une vingtaine, suivant sa taille, de trous, normalement, mais là, on l'a multiplié avec ce qu'on appelle des multi-alvéoles. On arrive à avoir jusqu'à 250 alvéoles dans une même brique creuse. Alors, non seulement on obtient un matériau plus isolant, mais comme on multiplie les cloisons, eh bien, on obtient aussi un matériau beaucoup plus résistant à l'écrasement. C'est 3 fois plus solide, 3 fois plus résistant à l'écrasement, donc ça peut supporter des étages également, qu'une brique creuse ordinaire. Et en plus, c'est plus résistant au feu, parce que le cloisonnement retarde évidemment l'éventuel effet de la chaleur. Alors, autre avantage de ce type de brique, c'est que c'est fait plus récemment, donc avec des matériels beaucoup plus précis, et donc on a une brique qui est totalement calibrée, c'est-à-dire qu'elle est au millimètre près, elle est calibrée. Donc ça permet quoi? Ça va permettre de faire un assemblage, non plus avec la grosse couche de mortier appliquée à la truelle, je dirais pas à la va-vite, mais sans véritable précision. Là, on va plus utiliser ça. On va mettre la truelle de côté et on va déposer donc sur le champ supérieur de la brique. On va lui déposer une mince couche de mortier-colle, mais c'est vraiment de l'ordre des millimètres. Et on va appliquer ça non plus donc à la truelle, mais avec une sorte de chariot distributeur, un rouleau. C'est pour ça qu'on parle de maçonnerie roulée. Et donc ensuite, on va poser sa brique et ça va tomber pile, avec beaucoup moins d'épaisseur de joint. Donc, un autre avantage sur le plan de l'isolation, c'est que ça réduit les ponts thermiques et que ça favorise l'étanchéité à l'air, qui est l'une des préoccupations majeures aujourd'hui en matière d'isolation. Jusque dans les années 80, ça permettait de faire des maisons sans isolation rapportée. Aujourd'hui, avec les exigences de la RT 2012 et plus encore dans ce qui va être donc la RE 2021, je ne sais plus très bien. Hein, on attend là,
Il faut qu'elle soit déconfinée aussi.
Voilà, il faut qu'elle soit déconfinée. Eh bien, il faut tout de même une isolation rapportée, généralement à l'extérieur. On fait une ITE, comme on en parlait tout à l'heure. Avec notre premier auditeur. On va avoir besoin de moins de 10 cm sur une brique, par exemple, de 37 cm, c'est normalement l'épaisseur. Si on passe à 42, on a presque plus besoin d'isolation, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Et ça permet donc de faire des maisons à la fois précises, solides et très isolantes. L'avantage aussi, c'est que c'est de l'argile, hein, c'est de la terre cuite. Et donc, on a quelque chose qui, on parlait tout à l'heure, de respirant. C'est-à-dire que là, par exemple, on pourrait avoir intérêt à avoir un enduit à la chaux au mortier bâtard, comme ça a été évoqué, parce que là, le côté échange thermique existe. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on met du plastique au niveau de sa façade, évidemment, ça respire plus, ça ne peut plus respirer. La terre cuite a aussi un avantage, c'est que elle a un bon déphasage. Alors, le déphasage, c'est le temps que met la chaleur à pénétrer dans la maison. Alors comme c'est retardé, ça fait des maisons plus fraîches. Donc des maisons plus fraîches qui respirent bien, à condition évidemment de pas y mettre du polystyrène à l'extérieur.
Et retardé, ça veut dire que malgré tout la chaleur arrive.
Elle finit par arriver, mais elle met beaucoup plus de temps qu'avec par exemple un parpaing de béton. D'accord. Donc ça veut dire que elle restera plus fraîche longtemps en fonction, parce que la nuit, évidemment, la maison va se rafraîchir. Bémol, c'est plus cher. C'est plus cher que le béton, 15-20%, ça dépend des cas. Et puis surtout, alors il faut faire attention, il faut choisir vraiment une entreprise performante. Il n'y a que des entreprises performantes en France, évidemment, mais il y en a qui sont techniquement un petit peu plus évoluées. Donc là, il faut prendre une boîte qui a l'habitude de monter ce type de matériaux, parce que c'est tout l'avantage, c'est la précision. Il y a, comme on met moins de mortier, puisque c'est un mortier-colle, ça va aussi faire un chantier plus propre. Donc, vous voyez, ça présente beaucoup d'avantages et ça se développe, ça s'est bien développé en France, mais je pense que c'est une très bonne solution si on va faire construire demain sa maison.
Voilà, 7h19, dans quelques minutes, notre spécial Véranda. Vos questions sur ce sujet, je le rappelle, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Dans un instant aussi, je vais vous offrir un joli cadeau, un cadeau qui fait rêver Christian. Christian rêve de se prélasser dans ce spa gonflable que je vais vous offrir tout à l'heure. Mais il ne pourra pas, car il n'est que pour vous, pour Christian. Et avant tout cela, Patrice nous attend au 3216. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RMC, Patrice.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
De Bois-le-Roi, dans le 77, en Seine-et-Marne.
Ah là, près de la forêt de Fontainebleau.
Exact.
Mais oui.
Alors, parlez-nous de votre projet de piscine.
Alors, j'ai fait un projet, j'ai construit ma piscine moi-même avec un ami. C'est un bassin qui fait 6 mètres par 4, avec 1,60 m de profondeur. Je l'ai construit en parpaing penché. Ma question est la suivante. Je voudrais isoler mes murs, enfin pas les isoler, les enduire afin de rendre mon bassin étanche. Et oui. J'aurais voulu savoir quel produit je dois appliquer sur les murs. Parce que moi, je veux pas mettre de liner.
Bon. Pourquoi vous voulez pas mettre de liner ?
Pour une question de coût.
Ah oui, d'accord. Vous savez, de toute façon...
Ça coûte cher, un liner de piscine ?
Oui, ça coûte quand même assez cher. Je n'ai pas d'idée là, précise en fonction de la surface. Mais c'est quand même le plus simple et c'est ce qui est le plus étanche pour un amateur. Hein. Parce que là, si vous lancez dans l'étanchéité de la piscine, c'est quand même un boulot important.
Alors ça, rappelons ce que c'est un liner, hein, Christian.
C'est une feuille, on va dire. C'est une enveloppe, c'est une feuille plastique. qui c'est comme une grande bâche. C'est comme une grande bâche. Ah oui, c'est très robuste, bien sûr. C'est comme une grande bâche. Alors, et ça présente aussi l'avantage, c'est que quand ça se perce, on peut quand même le réparer, quoi. On peut,
voilà. Bon, on peut, mais ça étanchéifie donc en fait toute la surface de la piscine.
Et c'est fait en quelques heures, quoi. Donc c'est tout l'avantage. Mais si vous voulez à l'ancienne, eh bien il y a l'ancienne, il y a un enduit. On peut mettre un enduit plus on y ajoute un adjuvant donc. Qui va rendre étanche la couche de mortier que vous allez mettre. Bon, c'est la méthode classique, hein, c'est peut-être la plus simple, parce que sinon vous avez des possibilités d'étanchéité avec une membrane armée. Alors vous avez en fait vous avez une membrane PVC, une membrane polyester, puis une membrane PVC. Mais ça se fait plus ou moins à chaud, donc c'est pas très à votre portée peut-être. Et puis il y a aussi le polyester plus les couches de fibres de verre. Et puis évidemment toujours on finit par un gel coat, hein, c'est-à-dire par une peinture spécifique qui elle aussi est assez chère. Méfiez-vous, hein, là je voudrais pas que vous ayez passé les gros efforts de monter une piscine pour ensuite, pardonnez-moi l'expression, mais vous emmerder avec des fuites permanentes.
Bien sûr, Bon, après, si j'applique cette méthode-là, j'ai toujours la solution de passer sur un liner si tout
creuse. Oui, mais attendez, ça va vous doubler le prix du liner aussi. Donc,
complètement.
Méfiez-vous, quoi. Vous savez, des fois, l'économie coûte cher. Hein.
Oui. Et ça coûte combien, liner? Vous vous êtes renseigné, Patrice?
Il faut à peu près entre 3 et 4 000 euros.
Oui, oui.
Ah ouais, c'est pas donné.
C'est sûr que si vous faites un enduit, à ce moment-là, tentez le coup de l'enduit basique, hein, un enduit hydrofuge et un coup de gel coat, vous allez évidemment diviser par deux le coût, oui. Même peut-être plus. Hein. Mais bon,
oui.
Avec le risque de devoir recommencer.
Alors, bon,
et avec le risque aussi d'avoir une fuite d'eau... sans vous en apercevoir.
C'est quoi le risque là, d'avoir une fuite dans une piscine?
Bah, le risque, c'est...
Que le bassin bouge.
Et puis que le bassin, que ça puisse affecter la maçonnerie elle-même, quoi, puisque ça peut la désagréger un peu. Mmh. Et puis surtout, c'est le coup de l'eau. Hein, parce que,
On va être obligé de remplir sa piscine régulièrement.
Voilà. De toute façon, vous savez qu'on remplit régulièrement une piscine, on ne la vide jamais, hein, pratiquement pas. Sauf parfois pour des réfections ou l'hiver où on la vide des deux tiers. Mais sinon, on ne fait que rajouter de l'eau et c'est normal. Hein. Ne vous inquiétez pas si vous avez une baisse de niveau de l'eau. Il y a un truc qui s'appelle l'évaporation.
Mais l'eau ne s'abîme jamais, en fait. L'eau de notre piscine.
Si elle est bien traitée, ben on en parlera, je pense, la semaine prochaine.
Ouais.
D'envisager de traiter ce thème, au moins pour les petits bassins. Mais pratiquement, l'eau n'est pas éternelle, mais pas loin. Quoi.
Voilà, Patrice.
D'accord. Très bien.
Bah écoutez, merci de votre
merci
beaucoup. À très bientôt.
Une très bonne journée.
Voilà, et profitez bien de votre piscine.
Merci beaucoup.
En plus là, ça tombe bien. Hein. Le temps. Alors, elle est pas finie. Ouais, bah, la piscine
quand même,
de Patrice.
Parce que si un liner, ça va vite à poser. Enduire toute sa piscine, ça prend un peu plus de temps.
Ça prend un peu plus de temps.
Eh bien, faut laisser siffler.
7h24. Je tenais à vous rappeler que ce matin, je vous offre. De quoi vous détendre. Si on parlait de piscine avec notre auditeur, moi je vous offre un spa gonflable, le Lazy Spa de Best Way. Vous allez pouvoir l'installer où vous voulez, dans le jardin, en profitant du soleil, ou même à l'intérieur, et vous offrir un moment de détente. Et vous pourrez profiter donc d'un vrai spa. C'est sympa, hein?
Oui.
Pour remporter ce cadeau, ce spa donc que nous vous offrons. C'est simple, vous jouez avec nous, vous nous envoyez maison par SMS au 732-16. Je vois que Claire Navarro est intéressée.
Exactement, j'aimerais bien. Je peux jouer?
Allez, oui, d'accord. Mais vous ne le dites pas, vous gardez ça pour vous. Hein, vous changez votre prénom. Je ne sais pas, moi, Navarro et puis un autre truc avant.
Voilà.
C'est pas clair. Donc vous nous envoyez maison par SMS au 732-16. Maison par SMS au 732-16. On vous souhaite bonne chance. Christian, vous vouliez rajouter quelque chose?
Ah oui, simplement avec les spas à l'intérieur. Si c'est sur le rez-de-chaussée et qu'il n'y a pas de cave en dessous, ça va. Sinon, il faut faire attention au poids. Quoi.
Oui, bien sûr. Parce qu'un spa, ça peut devenir très très lourd avec l'eau.
Des tonnes.
Hein.
Oui. Donc il faut être sûr si on le met à l'étage, par exemple. Il faut quand même être sûr que le plancher est suffisamment...
Si on se retrouve sur le canapé d'un coup...
T'as remarqué comme c'est gonflable.
Ça amortit. On rebondit. Hein? Ça vous fait rire, hein, ça.
Oui.
Voilà, vous voulez tenter votre chance pour ce spa maison par SMS au 732-16. 7h25, on revient dans un instant. La véranda est prête, Christian ?
Elle est prête. Enfin, allez, elle va peut-être se monter.
Elle va peut-être se monter. Vous avez des questions sur les vérandas. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient juste après la météo.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Tu veux quoi ?
Je veux une belle véranda qui entoure toute la maison. Pour qu'on boive le thé en regardant le coucher de soleil.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Ma maison. Ma maison,
aïe aïe aïe,
inondée de soleil.
Imaginez Christian PC en plein télétravail. Christian PC qui a un Mac, hein, parce que bon, ça aurait été plus simple s'il avait eu un PC, oh, mais non,
oui, évidemment.
Christian PC, donc son Mac, son petit bureau.
Petit, ça va.
Un beau bureau pour vous accueillir correctement. Alors. Et puis donc cette véranda baignée de soleil.
Et le store quand même, parce que.
Et le store.
Oui. Et des fois la casquette quand il y a trop de lumière.
Annie, votre secrétaire qui vous apporte le café.
Et bien sûr. Et qui travaille aussi avec moi.
Et qui travaille avec vous. Formidable. Quel beau scénario. Oui. Quelle belle histoire, Christian.
Voilà.
Et c'est en travaillant dans ces conditions-là que vous avez eu cette idée de revenir sur les vérandas.
Oui, je me suis dit, tiens, on va donc faire un peu presque du storytelling. Là, on va raconter comment ça s'est passé. C'est-à-dire que, évidemment, il y a eu le confinement. J'ai un bureau professionnel séparé de mon habitation à Caen. Et bah, du coup, on a ramené les ordinateurs, au moins deux, les plus utiles. Et puis, je me suis installé où ? Bah, j'ai plusieurs pièces, mais vous avez rangé le bureau, enfin le bureau ordinaire, quoi, c'est tout dire. Et bien là, du coup, bah, j'ai préféré me mettre dans la véranda. Et ça a été une expérience très intéressante, et à tel point qu'en ce moment, bah, je travaille au moins à mi-temps dedans.
Ça vous a fait redécouvrir en fait cette pièce.
Oui, oui, bien sûr. Oui, parce qu'en plus cette pièce, elle était dévolue évidemment à qui ? Eh bien, aux plantes. Ça va
pas. C'était plutôt Patrick Mulan qui était dedans.
L'été arrivant, enfin la belle saison, on a pu tout sortir. Et puis il y avait aussi, c'était le domaine du chat. Qui était bien tranquille, voilà.
Eh oui. Donc vous avez perturbé la vie du chat.
Je salue Wiggy au passage, et qui a bien pris les choses au contraire, parce que bah, vous savez bien, les animaux, quand vous êtes quelque part, ils viennent. Évidemment.
Oui, bien sûr.
Et donc je lui ai mis une chaise. Il a une chaise maintenant.
Bon, très bien.
Il est très bien. Donc voilà cette petite. Histoire.
C'était émouvant, Christian, cette histoire. Hein, franchement, en plus avec la fin sur le chat, là, c'était bien. Ouais,
n'est-ce pas,
Alors, évidemment, on vous invite à nous appeler au 3216 pour poser vos questions. Hein. Vous avez envie de construire une véranda. Est-ce qu'on a le droit de construire une véranda ? Est-ce que c'est compliqué ? Combien ça coûte, etc. Nous avons un expert avec nous.
Voilà, nous avons Michael Monori. Bonjour.
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 Déjà venu d'ailleurs sur ce plateau. Vous êtes expert chez Vie et Véranda, qui est un spécialiste de la question. C'est une entreprise française. Hein,
exactement.
Véranda. Lyonnaise, non, je me trompe ?
Lyonnaise, exactement.
Voilà.
On avait envie de lui dire bonjour en disant Ave Véranda, mais ça
ne
marchait
pas. Oui, mais
ça, c'est pas bon.
Ah, ça, c'est à Lourdes. C'est à Lourdes.
C'est à Lourdes ? D'accord. Moi, j'aurais mis ça plutôt à Rome, mais bon.
Oui, bah ça dépend. Bah,
tout dépend.
Non, moi, je suis pour les vacances en France, donc
oui,
pour les pour les pèlerinages aussi.
C'est vrai, ça marche aussi.
Quand même vrai. Restez chez nous. Michael, donc bonjour. Vous êtes un spécialiste de la véranda. L'une des premières questions qui se pose, on va voir donc d'abord, on va avant de voir comment on peut utiliser en bureau cet espace. Est-ce qu'on va faire le point déjà un peu globalement une véranda, c'est quoi ? C'est quels matériaux principalement pour les ossatures, pour les verres, pour les vitrages ? On peut faire un petit tour d'horizon là ?
Parfaitement. Alors dans la véranda, on va trouver plusieurs matériaux. Le plus connu, c'est la véranda en aluminium, qui fait à peu près 80% du marché de la véranda. Mais on a aussi d'autres matériaux comme le bois, qui va être très en vogue maintenant pour ses qualités esthétiques, mais surtout d'isolation thermique. Et un petit peu d'acier, mais au contraire du bois, l'acier va avoir des difficultés en isolation thermique. Donc il va avoir un gros avantage esthétique pour des demeures de maîtres, etc. Ça va bien s'y prêter. Par contre, quand on va rechercher l'efficacité thermique, ça va être un petit peu plus compliqué.
D'accord. Le PVC, ça existe, mais c'est quand même un peu bas de gamme, non ?
C'est plutôt bas de gamme, ça va être plutôt des petites surfaces. On va rester dans le beau window, si vous voulez, avec le PVC.
Mais le PVC présente, lui, l'avantage de l'isolation, justement.
De l'isolation, après, ça va être la durée de vie, le jaunissement, les choses comme ça, et le manque de résistance. pour avoir des grosses portées, le PVC va être beaucoup moins résistant que de l'alu ou que du bois.
D'accord. Vitrage, double vitrage forcément maintenant.
Minimum double vitrage avec du gaz comme le gaz argon et sur des épaisseurs qui vont commencer sur du 4-16-4, mais maintenant des belles gammes en 4-24 vont.
Alors 4-16-4, faut rappeler, hein, c'est 4 l'épaisseur du vitrage, 16 l'espace et à nouveau une vitre de 4 et comme vous le disiez, au gaz argon, ça veut dire que entre les deux, on met un gaz. Ça pourrait être de l'air. Hein. Autrefois, c'était de l'air. Maintenant, on y met du gaz et notamment l'argon.
D'accord. Donc, isolation thermique et phonique là. Hein.
Alors ça, oui. Oh, quand on est sur un simple vitrage, un ordinaire, je veux dire ce qui vient d'être nommé. L'acoustique, c'est pas vraiment ça.
C'est correct. Après, on a des vitrages qui vont être phoniques et qui vont là avec des épaisseurs différentes. Pour avoir d'accord. une performance plus performante.
D'accord, avec une vitre plus épaisse, une des deux plus épaisse.
Hein. C'est ça, l'idée c'est d'avoir un delta entre la vitre intérieure et extérieure pour filtrer la plus grosse panel d'ondes sonores.
Voilà. Alors, toi ou pas toi? Parce que moi j'ai le sentiment qu'une véranda sans toit, c'est une extension.
Aujourd'hui, suivant l'utilisation de la véranda...
J'entends toit opaque. Hein.
Oui, j'avais compris votre question. Ça va vraiment dépendre de la région... l'exposition et l'utilisation qu'on veut faire. Il n'y a pas une règle d'or qui va dire une bonne véranda, elle doit être avec ce type de toiture ou ce type de toiture. L'intérêt, c'est vraiment de réfléchir au projet sur lequel on va se trouver avec son exposition, sa région et l'utilisation. On parle de bureau depuis oui. tout à l'heure, on ne va pas réfléchir à un bureau comme une chambre, comme un salon ou bien comme sûr. Une cuisine, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins. Le bureau, vous le disiez tout à l'heure, c'est intéressant de pouvoir avoir quelque chose qui va nous permettre de gérer le taux de lumière, si on travaille sur votre Mac ou sur n'importe quel autre ordinateur, ne pas être gêné par la luminosité.
Alors, on va dire plutôt toit opaque dans le cadre de l'implantation pour un bureau ou
opaque ou un mix avec quelques puits de lumière, une partie d'accord. qui sera une zone qui sera... un peu plus à l'ombre, qui sera elle tout opaque, et peut-être une autre partie qui sera un peu plus ensoleillée avec des trames de vitrage qui seront intégrées dans la partie opaque.
Si on est en non-opaque, en transparent, donc en translucide, on va dire, c'est quoi là? C'est polycarbonate en règle générale?
Ou vitrage. Maintenant, on a des vitrages ultra performants. On va commencer à avoir des très beaux doubles vitrages, donc avec des épaisseurs un peu plus importantes de ce qu'on disait tout à l'heure pour les façades, voire du triple vitrage.
Hein, ah oui. Ça coûte cher, là.
Ah,
oui, c'est ça. C'est pas le prix.
Là, on parle de qualité de matériaux. Après, c'est le nerf de la guerre, c'est le budget.
On va en parler tout à l'heure du budget, bien sûr. On a Pierre au 32-16, Christian, qui a une question. Véranda. Bonjour, Pierre.
Bonjour
Pierre.
Bienvenue.
Bonjour, merci. Moi, je vous appelle parce que voilà, j'ai une question. Donc, pour vous resituer un peu le projet, là, j'ai fait faire une véranda. J'habite dans le sud de la France. Hein. Proche d'Aix-en-Provence. Donc j'avais une terrasse au premier étage chez moi qui donnait sur mon salon. Et cette terrasse, ben, en fait, elle ne nous servait à rien. Alors tout à l'heure, vous parlez de la pièce du chat. Hein. Moi, c'était la pièce du chien.
C'est ça.
Une vingtaine de mètres carrés, hein, 25 mètres carrés. Hein? Donc je l'ai fait entièrement fermé. Hein, j'ai fait le toit, tout vitré en fait, hein, entièrement vitré. Et par contre, maintenant, donc je me pose la question, bon, il fait chaud dedans. Maintenant, je me pose la question du sol. Qu'est-ce que je dois faire au niveau du sol? Donc, j'avais un carrelage, du coup, c'est le carrelage de la terrasse, c'est un carrelage extérieur. J'aimerais en faire quelque chose d'un peu plus joli. Hein. Le but, moi, de la véranda, ben, c'est de faire une pièce à vivre pour les enfants aussi, donc une salle de jeu. Et du coup, ben, je me pose la question, quoi faire au sol? Est-ce qu'il faut que je lève le carrelage? Est-ce que je pose quelque chose par-dessus? Qu'est-ce que vous me conseillez?
Je sais pas, Michael.
Tout est possible en fait. À partir du moment où la pièce va être étanche, on est sur de l'agrandissement. Si vous voulez mettre un nouveau parquet, un nouveau carrelage, du parquet ou un lino, tout est envisageable.
Ouais. Vous pouvez peut-être mettre un bon pour que ça conserve un petit caractère, je dirais, rustique. Moi, je verrais bien. Et puis les enfants qui vont jouer, peuvent peut-être un peu tomber. Moi, je mettrais peut-être quelque chose de textile et quelque chose de textile naturel. Je mettrais peut-être un jonc de mer, quelque chose comme ça. Vous voyez, ça donnerait un petit côté presque exotique.
D'accord. Alors, le seul paramètre que je vous ai pas donné, hein, c'est que bon, maintenant le chien, mais vous le chat, vous avez fait une chaise. Moi, le chien, maintenant, il vient, hein, dans la véranda.
Oui.
c'est devenu son coin. Hein. Et il a des poils. Alors, j'ai peur, il perd un peu les poils, quoi. Bon, comme tous les chiens. J'ai juste un peu peur que le jaune de mer, mais justement, ça soit compliqué.
Alors, à ce moment-là, mettez un revêtement plastique.
Le fait que ça soit un plastique, avec les UV, etc., ça crée rien.
Ah bah écoutez, moi il faut interroger le fabricant de PVC, hein, voir ce qui va tenir le mieux. Mais sinon, jetez un parquet, hein, et puis vous serez tranquille. Mais ça sera vraiment pièce, quoi. Ça perdra un petit peu. L'avantage du carrelage, c'est quand même que ça reste l'image véranda. Je sais pas, Michael, c'est le plus classique.
C'est le plus classique. Et après, pour une pièce comme ça, qui peut être un prolongement de chambre ou pour les enfants, un parquet peut être tout à fait approprié. Qui va être peut-être un peu plus chaud, ça va dépendre aussi de la pièce qu'on a en dessous, si c'est isolé, pas isolé. Le bois peut avoir un petit rapport un peu plus isolant et permettre d'avoir les pieds chauds quand on marche dessus, si les enfants sont pieds nus.
Donc, oui, parce que le jonc de mer, c'est pas fameux pour les pieds. Enfin, bon, moi, je veux vous dire, j'en ai chez moi, c'est...
Oui, mais vous avez les pieds durs. Vous avez
les pieds durs, c'est ça.
Bon, Michael, vous restez avec nous, on a encore évidemment beaucoup de questions à vous poser sur la véranda. Est-ce qu'il faut que je dise à la mairie que j'installe une véranda? Est-ce qu'il me faut des autorisations, l'aspect législatif? Est-ce que c'est compliqué à installer? Est-ce que combien ça coûte aussi, hein, d'installer une véranda?
Alors ça,
on en parle dans quelques instants. Vos questions, bien sûr, comme Pierre au 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans un instant.
RMC, jusqu'à 8h, votre maison, François Sorel,
Christian Pesset.
Il est 8h moins le quart, c'est RMC, le week-end des experts, c'est la maison, vous le savez, jusqu'à 8h avec Christian Pesset et notre invité Michael Monori, expert de chez Vie et Véranda, qui répond à toutes vos questions, Christian. Pour commencer, voilà, est-ce que j'ai le droit d'installer une véranda?
Oui, c'est quoi la réglementation?
Dans la maison.
Alors, il faut demander une autorisation à votre mairie. Cette autorisation peut être différente sur la surface de votre véranda. En dessous de 5 mètres carrés, on n'a pas d'obligation.
Oui. C'est-à-dire qu'en dessous de 5 mètres carrés, je n'ai pas obligation de déclarer ça à la mairie.
Exactement.
Je fais ça dans mon coin.
C'est voilà. Ça. Avec l'ambiguïté, ou si c'est sur la première façade, du moins la façade du rue, normalement quand on change les façades, on doit déclarer. Donc il y a une petite ambiguïté. C'est que d'un côté, on nous dit qu'il y a jusqu'à 5 mètres carrés, on n'a pas besoin de le déclarer.
Mais il ne faut pas l'avoir, quoi.
Voilà, il ne faut pas l'avoir.
D'accord.
Donc voilà, c'est un petit peu ambigu, mais normalement, les mairies ne sont pas trop pénibles avec ça. Donc normalement, sous 5 mètres carrés, il n'y a pas de souci. Après, de 5 à 20, on est sur une déclaration de travaux. 5 à 20 mètres carrés, on est sur une déclaration de travaux. Ouais. Où ça se complique un petit peu, c'est entre 20 et 40. C'est que dans certains cas, à 25 mètres carrés, on va rester en déclaration de travaux. Et dans certains cas, on va passer en permis de construire.
Le permis de construire, ça dépend s'il y a un PLU, c'est ça?
C'est ça. En PLU, on va avoir jusqu'à 40 mètres carrés en déclaration de travaux et après permis de construire. Sauf si l'installation de la véranda avec les mètres carrés de la maison, on dépasse 150 mètres carrés habitables, du moins, de surface de plancher. Si on dépasse les 150 mètres carrés de surface de plancher, on va devoir faire appel à un architecte pour le permis de construire, et là, on passe en permis de construire.
Et puis, d'une façon générale,
c'est pas simple, hein, quand même. Hein. Ouais.
Non, c'est pas simple, mais vos professionnels seront orientés là-dessus.
Mais d'une façon générale, quand on est en périmètre protégé, c'est-à-dire dans un environnement de monument historique classé, là, c'est presque
tout à fait.
C'est systématiquement permis de construire avec recours à l'ABF, non à
pas forcément.
Ça peut être une déclaration.
On peut avoir une déclaration de travaux, mais avec ABF. Donc à chaque fois qu'on a les architectes des bâtiments de France, on va avoir un délai minimum d'un mois, entre 1 à 3 mois, qui vont se rajouter pour le traitement chez l'ABF.
Et si je suis en copropriété, là, il faudra aussi l'autorisation.
En parallèle, demander l'accord du syndic. D'accord. Exactement.
Très bien, on a Annie, tiens, sur Direct Studio, qui nous dit: dans ma véranda exposée plein ouest, c'est une vraie fournaise. Voilà. Que faire contre cette chaleur? Même les vitres ouvertes, il fait chaud.
Et oui, est-ce que on dit toujours exposition sud, on met toujours ses vérandas au sud ou à l'ouest, mais est-ce que finalement c'est pas une bêtise parce que ça devient des fournaises? Quelles sont les solutions? Donc moi j'en ai une, mais quelles sont les solutions pour lutter contre la chaleur dans une véranda?
Alors là on travaille après coup. Maintenant, on va essayer de travailler en amont, c'est-à-dire sur la réflexion du projet. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut mettre des vérandas sur n'importe quel secteur et même exposition au soleil, mais par contre, on ne va pas réfléchir la véranda de la même façon. Donc, si on peut travailler sur cet effet de serre en amont, donc c'est sûr que sud et ouest, on va mettre plus d'opaque que de vitrage. Maintenant, si on a beaucoup de vitrage sur la véranda où on est sud, effectivement ça va chauffer. Et là il va y avoir plusieurs choses qu'on va pouvoir rajouter, soit des stores intérieurs réflecteurs maintenant qui ont des grosses performances, parce qu'on va pouvoir renvoyer plus de 80% des rayons chauffants, oui, avec ces stores qu'on, vous savez, comme une petite partie en aluminium, voilà, en extérieur, donc qui vont être très performants, un peu comme les multicouches maintenant qu'on trouve en isolation thermique. Donc ça va être très performant, c'est simple d'installation, ça peut être fait par des professionnels. Si on est bricoleur, on peut le faire nous-mêmes aussi. Donc ça, c'est une solution qui est rapide et efficace. Après, on peut aussi intégrer, comme vous le disiez chez vous, un Storban.
Voilà, moi j'ai un Storban, c'est pas mal, mais enfin,
alors,
ça chauffe quand même.
Alors qu'est-ce que c'est,
un Storban? Un Storban, c'est un store, vous savez, qui est avec des bras articulés, qui se projette au-dessus.
D'accord, oui.
Comme on l'a normalement, classiquement,
oui,
sur les terrasses.
Oui, oui, oui.
Mais là, donc on le met juste au-dessus, on fait en sorte qu'il ne enfin, juste, il frôle le toit, il doit pas le toucher. Bon, l'un des problèmes, c'est que pour aller ensuite lubrifier les articulations, Tintin, parce que évidemment, quand il est replié, on peut pas, et déplié, il y a le toit de la véranda.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un système comme ça de store en tissu qui va s'appeler Relax. Pour les marques que je connais,
oui.
C'est très efficace parce que là le système va être accessible, on va être sur des pieds qui vont être posés sur la véranda, donc plus stable, avec moins de prise au vent, donc ça c'est une solution aussi. Dans le même type de système, on a la possibilité de mettre des volets roulants, donc après, ah, attention, oui, on n'est plus sur les mêmes coûts que sur un store intérieur.
C'est assez onéreux. Tout ça peut être asservi à la température et au vent si c'est un store extérieur.
Exactement.
Christian, sur Direct Studio, on parlait tout à l'heure de la législation et que vous disiez que en dessous de 5 mètres carrés, est-ce que c'était cette question? Non, c'était pas cette question. En dessous de 5 mètres carrés, est-ce que tous les ans, par exemple, je peux décider d'agrandir de 5 mètres carrés ma véranda et de passer outre, en fait, une autorisation plus compliquée à
malin,
avoir?
Là. Non, c'est malin.
C'est un petit malin, c'est un Christian, hein.
Voilà, oui, c'est ça. Ça ne m'étonne pas. Non, c'est pas possible.
C'est pas possible. Non. Au bout d'un moment, ils se rendront compte.
Ils vont se rendre compte, oui,
de la supercherie. Nous avons Michel qui est avec nous au 32-16. Bonjour Michel.
Bonjour Michel. À tous les deux. Merci de vos émissions. Voilà, j'ai une véranda que j'ai faite faire par un professionnel en 2000. Et j'ai, avec une structure en aluminium, avec du verre double vitrage et je crois qu'il y a de l'argon,
ouais,
entre
les deux, tout à l'heure,
l'épaisseur. Mais je voudrais augmenter l'isolation au niveau de la verrerie. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Bah, rien d'autre que la changer.
La changer. Mmh. Et y a pas mal d'entreprises qui font ça parce que j'ai pas l'impression que ça soit si simple que ça.
Alors, le plus simple, c'est de se retourner vers le fabricant qui a fait votre véranda. S'il est encore là, ce serait l'idéal.
Il n'est plus là.
Ah.
Enfin, alors... Le fabricant, apparemment, c'est un fabricant belge, mais l'entreprise qui a monté la véranda, elle n'est plus là.
D'accord, donc vous avez un profilé qui peut encore se trouver chez le fabricant peut-être, mais l'installateur n'est plus là.
Ouais.
Alors là, ce qu'il faudrait faire, c'est aller voir un spécialiste près de chez vous avec les devis et le bon de commande que vous aviez pour qu'on voit si on a des compatibilités entre votre produit actuel et ce qui est aujourd'hui sur le marché et surtout ce que font le fournisseur que vous allez voir. Donc là, vous donnez une réponse tout de suite, c'est un peu délicat, mais il faut aller avec tous ces éléments chez le professionnel et éventuellement, peut-être qu'il y a des parties en vitrage qui peuvent être changées par de l'opaque, par exemple, qui peut être une solution pour améliorer la proportion opaque vitrage et avoir un résultat thermique beaucoup plus confortable à l'intérieur.
Si vous voulez, on peut transmettre vos coordonnées donc à Michael qui vous,
oui,
conseillera si vous le souhaitez.
Bien sûr.
Hein.
Avec plaisir.
Merci Michel. Alors le prix des vérandas,
oui,
comment ça se calcule? Est-ce que c'est cher?
Ouais, la réputation, c'est quand même que c'est très cher pour quelque chose qui, où il y a même pas de mur ou presque. C'est combien une véranda de 20 mètres carrés par exemple?
Alors c'est assez différent suivant les projets qu'on va faire.
Il va répondre comme un politique là.
Et le prix c'est relatif.
Allez-y.
Non mais juste pour avoir une idée.
Je vais vous donner une idée bien évidemment, mais je préfère préciser puisque on sait faire des vérandas à partir de 1000 euros du mètre carré, on sait en faire jusqu'à 3000 euros du mètre carré. Qu'est-ce qui va faire la différence entre ces prix? Ça va être le choix des matériaux, les techniques utilisées, la complexité du projet. Par exemple, aujourd'hui, si on fait une véranda avec de la tuile, une reprise de toit, ce qui existe, oui. Ce qu'on sait faire, on a un projet qui va vraiment très bien s'intégrer à la maison, qui va être très performant en isolation thermique, puisqu'on va être vraiment dans des agrandissements. Donc pour le bureau, c'est parfait. Mais par contre, on n'est pas sur le même prix qu'une véranda en aluminium, en polycarbonate. C'est pour ça que vous donnez un prix pour une véranda.
Disons que minimum, c'est 1000 euros le mètre carré.
Voilà, pour avoir des choses sérieuses.
Donc une véranda de 20 mètres, c'est 20 000 euros.
Voilà.
Ça, c'est le minimum.
C'est le minimum pour un produit de correct avec les assurances de garantie décennale.
Voilà, et ça, c'est ça. Garantie décennale, assurance dommage ouvrage.
Suivant la surface.
Non, tout le temps. On n'est jamais d'accord.
On n'est jamais d'accord.
Là-dessus. Donc voilà.
C'est-à-dire que vous préconisez toujours une assurance dommage ouvrage.
C'est préconisé, mais c'est pas obligatoire dans la véranda.
Si, c'est peut-être pas dans la véranda. En construction, c'est une obligation légale qui est généralement transgressée.
Ça l'est pas dans la véranda, et dans la véranda, ça va être assujetti au prêt. Si vous avez un gros prêt, le banquier peut vous le demander, mais c'est pas une obligation.
Très bien. Et puis donc après, les prix peuvent s'envoler, comme vous le disiez, si on veut quelque chose de plus intégré, etc.
C'est ça. Après, si on prend l'exemple de 20 mètres carrés, si on parle de 30-35 000 euros, on est sur une belle moyenne pour avoir un beau produit.
Merci beaucoup, Mickaël Monory, donc expert de chez Vie et Véranda. Christian, on termine par votre coup de cœur. Là, vous voulez nous raconter ce qui s'est passé cette semaine chez vous.
Mon coup de cœur, on parle depuis des années des détecteurs de fumée. Ils sont devenus obligatoires, mais maintenant, on les oublie généralement. On ne les regarde plus, on ne les teste pas. Eh bien, tout simplement, dimanche, réunion familiale de déconfinement, si j'ose dire. Donc, un apéritif sur la terrasse, la cuisine de l'autre côté de la maison.
Tel que je vous connais, avec de l'alcool.
Non, il n'y avait pas besoin d'alcool. Et là, ça aurait pu faire en plus des dégâts. Non, mais tout simplement, la personne qui cuisinait a lancé sa poêle avec un peu d'huile, un peu de beurre, la bouteille d'huile en plastique pas très loin. Et puis, dans l'euphorie, eh bien, tout simplement, elle a oublié que sa poêle, elle chauffait.
Donc, elle est repartie vous voir.
Oui.
La poêle chauffée.
Oui, la poêle chauffée.
Avec le beurre, ça a pris feu.
Le grand classique, quoi. Et là, d'un seul coup, bam, ça s'est mis l'alarme s'est mise à retentir. Alors, il se trouve que j'avais la ceinture et les bretelles, puisque j'avais mon détecteur basique, et puis j'ai une alarme, une protection en télésurveillance qui était reliée aussi à un des détecteurs de fumée. Et donc, non seulement tout s'est mis à sonner, mais en plus, le téléphone a sonné immédiatement. Ma télésurveillance a fonctionné, la personne de la télésurveillance nous a appelé. Et immédiatement, on s'est rendu compte que effectivement déjà, la poêle commençait à brûler, la bouteille d'huile à côté commençait à fondre, et donc on était à deux doigts de la catastrophe. Alors je rappelle,
vous avez appelé les pompiers?
Non, on a immédiatement pris une couverture. Jamais d'eau sur une poêle qui est en train de brûler. Et donc on a jeté la couverture. Il y a eu simplement beaucoup de fumée, mais ça déclenche très bien. Donc là,
il faut arrêter là, bien sûr, le réchaud.
En plus c'était un appareil à conduction, donc heureusement il n'y avait pas de flamme en plus possible en dessous. C'était pas un réchaud gaz. Mais donc moi je vous le dis d'expérience, vérifiez vos détecteurs de fumée, remplacez les piles si c'est nécessaire, et puis aussi si vous avez une télésurveillance, eh bien prenez cette option parce que c'est une garantie supplémentaire. Vous êtes appelé immédiatement.
Bon. J'imagine que là, Annie a dû se prendre un savon quand même. Hein.
Mais je t'ai pas dit que c'était Annie.
Non,
je l'ai pas dénoncé.
Je regarde, je vois votre regard et je sais très bien.
Non, parce que de toute façon,
on l'embrasse, Annie.
En général, la personne qui est prise en flagrant délit de ce genre de petite négligence, eh bien, est déjà tellement contrariée, c'est pas la peine de le rajouter.
Vous êtes très très fort, Christian. Merci. Non, mais quelle galanterie, c'est incroyable. À la semaine prochaine, Christian PC.
J'espère qu'on pourra parler piscine la semaine prochaine. Parce que j'attends des retours d'un intervenant.
Mais bien évidemment. Et dans un instant, après Christian PC, c'est Christian Eka qui sera là pour une heure de Forme Santé. Christian, on se retrouve tout de suite.
Absolument, avec grand plaisir.
Et on va parler du rein, entre autres. À tout de suite.